Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour, bienvenue au Club Média RH. Eh bien, nous allons parler d'emploi, bien sûr, et de recrutement. Mais surtout, pourquoi les entreprises sont-elles en panne de recrutement? C'est la question que nous avons posée à Pauline Caillat, qui est directrice Havas Paris People. C'est une experte RH. Elle a des choses à dire, bien sûr. Décryptage avec Éric Didier, CEO de la société Comet, face justement à la pénurie de talents. Eh bien, Éric Didier propose, et il est spécialisé dans le matching des experts qualifiés. Il a mené une enquête, vous verrez, auprès de 1224 freelance. Le freelance est-il heureux? C'est la question qu'on lui posera. Et on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit aujourd'hui de Objo, avec son notre invité Adrien Chartier, qui en est le co-gérant. Il a 5 postes à pourvoir. Voici le sommaire.
BFM Business, le Club Média RH, l'invité témoin.
Bonjour Pauline Caillat.
Bonjour Alexandre.
Je suis ravi de vous revoir. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer dans cette émission. Alors, je rappelle que vous êtes, je l'ai dit, mais vous êtes directrice de Havas Paris People. Ça veut dire quoi, Havas Paris People? On connaît Havas, le groupe Havas.
C'est toute une équipe qui traite tous les enjeux d'attractivité, d'organisation, de change. C'est une branche.
Du groupe Havas.
Business unit.
D'accord. Alors, cette business unit, c'est vous qui la dirigez. Vous êtes combien aujourd'hui?
On est une grosse vingtaine.
D'accord. Passer de combien? De 3 à 20 en quelques...
En 18 mois, 8 à 20.
Oui, donc ça veut dire que ça cartonne et, que les besoins sont là.
Les besoins sont là. La conjoncture est favorable.
Voilà, les entreprises sont à la recherche de conseils. Alors justement, je disais que vous étiez une experte, bien sûr, dans le domaine RH. Quand les entreprises sont en panne de recrutement, c'est le sujet qu'on va aborder avec vous et vous avez étudié. D'abord, pourquoi et comment? Question bête, basique.
Pourquoi et comment? Parce qu'elles ne regardent pas suffisamment 4 leviers, les entreprises, aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, il y a 4 leviers pour dénouer ces enjeux de recrutement. Le levier de la réputation. La réputation en ligne, c'est-à-dire que quand vous tapez le nom d'une entreprise,
oui,
95% des candidats aujourd'hui, eh ben, il faut trouver les informations de base sur l'entreprise, mais également, désormais, vous savez, il y a tous les sites Glassdoor, Indeed, qui reprennent les avis des collaborateurs. C'est un peu l'équivalent de la fourchette des entreprises.
Oui, oui.
Et donc, il faut que ces avis, en fait, à un moment donné, soient plutôt positifs, parce que les candidats vont davantage croire les avis qui sont lus en ligne.
Donc le digital doit être prioritaire, si je résume, c'est ça?
Le digital est
doit
une
être
des composantes.
Essentiel.
La réputation en ligne est une des composantes du choix du candidat. Le deuxième levier, c'est la réputation des dirigeants, des leaders et des managers de l'entreprise.
C'est-à-dire
que un candidat sur deux choisit une boîte et choisit sa future boîte,
oui,
en fonction du leader.
Ah
et
bon
donc, à un moment donné, si votre
un
leader...
Sur deux.
Un sur deux. C'est énorme. Le leadership est devenu un sujet dans le recrutement qui est de plus en plus gros. Et souvent, on dit, c'est pas le plus important ce que vous dites de vous, c'est ce que Google va dire de vous. Et là, on est typiquement dans cette situation.
Il y a de gros changements de sociologiques, finalement.
Oui, dans la façon de recruter, effectivement, il y a de gros changements. Et dans les 95%, il y a 74% des candidats qui recherchent un emploi sur les réseaux sociaux.
Donc, oui, ça c'est très important.
Twitter, de plus en plus TikTok, ça
oui,
peut surprendre.
Mais c'est étonnant.
Mais c'est une tendance réelle, notamment auprès des plus jeunes.
Alors vous avez des chiffres sur les pratiques que l'on vit au sein de l'entreprise et que l'on revendique. Vous dites, 84% des salariés envisagent de quitter leur entreprise pour une autre ayant une meilleure réputation.
Ayant une meilleure réputation.
Là aussi, c'est nouveau, quoi.
Exactement, ayant des valeurs très alignées entre ce que vous prenez, ce que vous revendiquez sur vos outils de communication et la réalité au sein de votre entreprise. C'est-à-dire que si votre expérience candidat n'est pas alignée avec votre expérience collaborateur, vous aurez à la fois de la déperdition et de la démission au niveau des collaborateurs et à la fois un mal de chien sur votre recrutement.
Vous avez mis en lettres d'or quelque part une citation de Warren Buffett.
Oui, tout à fait. Alors là, je ne l'ai plus tout à fait.
Alors, il dit, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire.
Exactement.
On est dans le sujet.
Et c'est là où la réputation est devenue le bien matériel, le bien immatériel le plus intangible, en fait, qu'est les entreprises. Parce que vous pouvez vous agiter dans tous les sens. Et encore une fois, si ce qu'on lit de vous n'est pas favorable, vous aurez plus de difficultés dans vos recrutements.
Pauline Kaya, je redonne les chiffres que vous avez annoncés au début. 79%, c'est énorme, utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi et 70% des milléniums utilisent les réseaux sociaux pour évaluer la marque employeur. On est dans le sujet. Alors, il y a le deuxième point, vous dites important, donc c'est la réputation, d'après vos compétences, si vous l'êtes. Vous dites le deuxième, c'est la technologie.
Le deuxième, c'est la technologie. Pourquoi ? Parce que on dit que le DRH va être remplacé par un algorithme.
Ouais.
Alors, on a vu les derniers articles sur ChatGPT qui va bientôt tout faire à notre place. Mais dans le recrutement, c'est pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai.
Ouais.
Parce que autant des logiciels peuvent vous aider à faire de la qualification de CV, mais jamais le logiciel ne va savoir qualifier les compétences transverses.
Le système ne sait pas identifier les compétences.
Le système ne sait pas identifier tout ce qui est compétences transverses.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Donc le système, il va savoir vous mettre dans le bon panier si vous mettez tel nom d'école, tel nom de diplôme, etc. Mais le système ne va pas savoir dire si vous êtes plutôt une personnalité engagée, si vous avez une personnalité qui a du leadership, si vous avez fait 15 ans de bénévolat quelque part. Ça, elle ne va pas savoir quoi en faire.
Alors,
donc, c'est là où l'avenir des ressources humaines, l'humain de ressources humaines, a encore de belles heures.
Un bel avenir,
exactement.
Malgré la technologie, et s'il se sert de l'AI comme un outil d'accélération.
Exactement. Il faut, et maintenant les RH et tous les systèmes d'information sont bien câblés sur... c'est de la conjugaison. C'est de la conjugaison entre l'outil qui facilite et l'intelligence humaine qui qualifie.
Alors vous dites quatre points. Le premier, on l'a compris, c'est la réputation employeur. Le deuxième... selon vous, c'est la technologie. Le troisième, c'est la créativité, c'est-à-dire...
La créativité, parce que effectivement, quand vous prenez les campagnes de marque employeur, on a parfois le sentiment qu'elles se ressemblent toutes. Vous avez le collaborateur qui pose fièrement comme ça, avec un casque, avec une cravate, dans toutes les situations...
J'enlève la cravate.
Dans toutes les situations possibles. Et ce que je dis souvent aux clients que j'accompagne et aux DRH que j'accompagne, c'est « soyons créatifs ». Et les ressources humaines peuvent être créatives. C'est quoi être créatif ? C'est penser au serious game pour recruter. Penser au challenge. Penser un peu en dehors de la case de la campagne traditionnelle, parce que ça rejoint le quatrième point qui soutient les problématiques de recrutement, qui est la compréhension de la cible. Souvent, à un moment, dans une compétition, quand vous présentez votre campagne, vous arrivez en COMEX.
Ah.
Et alors, le COMEX...
Avec les vieux machins.
Pas tout le temps vieux et pas tout le temps machin, mais le COMEX pense souvent que la campagne s'adresse à lui.
Ouais.
Or, c'est faux. Quand vous avez
il juge selon ses propres critères.
Il juge selon ses propres critères. Or, les candidats sont souvent très différents d'un COMEX. Et ça,
bien
c'est
sûr.
Vrai qu'on a,
ça
on
paraît
a
logique.
Souvent un peu de mal à faire passer le message, de dire vous n'êtes pas la propre cible de votre campagne, en fait.
Donc, c'est comprendre la cible.
Comprendre la cible, c'est... une chose qui est primordiale, parce que vous allez l'adresser avec des codes différents, vous allez l'adresser avec des canaux différents, vous allez l'adresser avec des formats différents. Je peux vous prendre un exemple. Là, récemment, pour une entreprise qu'on accompagne, on a
Des noms.
On a supprimé le formulaire écrit. Vous savez que je donne jamais de nom. On a supprimé le formulaire écrit.
Oui.
Et on est passé sur un formulaire qui se base que sur l'audio. Donc, c'est-à-dire, plutôt que de remplir madame, monsieur, telle compétence, tel diplôme, etc., c'était une présentation en 10 secondes ou 30 secondes via un audio. Pourquoi on a choisi cette technique-là ? Parce qu'on s'est rendu compte que notre cible, justement, qui était plutôt peu qualifiée, avait du mal à remplir ses formulaires et ça mettait un frein, un véritable frein au lead de CV.
Alors du coup, on a bien écouté, comment est-ce qu'on aligne Pauline Kaya, comment dire, ses pratiques internes ?
Eh ben,
par rapport à ces quatre points dont vous venez de
traiter. On va reprendre ce que je disais au début sur la réputation. Il faut lever les irritants internes. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, en tant qu'entreprise, aller revendiquer des atouts employeurs à l'extérieur si votre expérience collaborateur n'est pas alignée. Alors, ça passe par de l'organisation, ça passe par la formation de vos managers.
On donne les clés.
On donne les clés. On donne les clés pour avoir une seule histoire, en fait.
Oui.
C'est la réconciliation du vécu de l'entreprise avec le perçu de l'externe. Et derrière, vous avez une communication qui peut être efficace.
En troisième point, vous dites, on démontre à sa cible que l'on a compris les bouleversements des rapports au travail.
Exactement.
Comment ?
Comment ? Ben, en utilisant les bons mots. On voit bien, et là je vais rien apprendre à nos téléspectateurs, mais le rapport au travail a été nettement bouleversé, notamment par la Covid. Et donc à un moment donné, si votre cible est jeune et que vous ne lui parlez pas de travail hybride, vous ne lui parlez pas de télétravail, vous ne lui parlez pas de data, vous aurez un mal de chien à aller sur leur terrain de jeu. Et donc encore une fois, on est dans les codes de la cible, on est dans une démonstration que l'entreprise est bien dans son temps.
Enfin, vous dites qu'il faut éviter les effets de mode. C'était le point que vous avez développé tout à l'heure.
Oui, alors je suis parfois un peu minoritaire sur ce sujet, mais tout ce qui est quiet quelque chose, j'y crois moyennement. En fait, c'est une conjoncture. On est dans un marché de travail du travail qui est de l'offre et de la demande. Il y a énormément d'offres pour peu de demandes. Et donc forcément, le candidat peut être plus exigeant.
Pauline Kaya, directrice Havas Paris People, vous restez avec nous. Très bons enseignements, vous allez pouvoir réagir à ce qui arrive. On parle de pénurie de talent. Eh bien, quelqu'un a trouvé une idée et il s'est tourné vers les freelances. Le bonheur est-il dans la freelancerie? Je ne sais pas si ça se dit. Réponse immédiatement avec Éric Didier.
BFM Business, le Club Média RH, Solutions RH.
Alors, Comet, c'est votre entreprise, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Éric Didier, vous êtes CEO de la société Comet. Comet dévoile une étude, Xerfi, sur les freelances. On les appelle... Il n'y a pas de mot français.
On peut appeler ça les indépendants, mais voilà. C'est pas très très bien vu. Et puis en France, on aime toujours bien les mots américains, ça fait mieux.
Alors face à la pénurie de talents et à l'urgence de la demande dans les technologies de l'information et du digital, votre entreprise, vous êtes 50 collaborateurs, c'est ça?
On est un peu plus de 50, oui, c'est ça.
Voilà. Et vous permettez le matching idéal et instantané d'experts qualifiés avec chaque mission en entreprise. Ça, c'est le point de départ de votre société qui cartonne, hein, d'après ce que j'ai vu.
C'est plutôt bien, on est monté de...
65 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Il y a 4 ans, on faisait presque zéro. Là, on fait 65 millions. Donc oui, ça cartonne.
Ben, bravo. C'est que là aussi, c'est comme je le disais pour Pauline Kaya avec Havas People. Eh ben, ça veut dire que le besoin est là. Alors, vous êtes spécialisé dans le matching d'experts qualifiés. Et vous avez mené une enquête auprès 1224 freelance. Vous allez nous dire ce qu'il en ressort. Vous dites que les meilleurs talents, il en ressort. Je donne déjà l'info, j'avance. Peut-être, je m'avance peut-être, si j'ai bien compris, les meilleurs talents sont désormais des freelances.
Dans certains mondes, principalement le monde informatique, mais aussi le monde marketing digital, ouais. Les personnes sont passées d'une adhésion à une marque à une adhésion à une spécialité personnelle. C'est-à-dire qu'un informaticien est spécialiste d'un certain nombre de langages, d'un certain nombre de verticales, et il va souvent choisir la mission ou le type de mission que propose le client plus que le logo du client lui-même.
Alors, j'ai lu, avec 3,5 millions de travailleurs indépendants, ça c'est les chiffres officiels, dont environ 1 million dans les métiers du numérique, la France connaît un développement de freelance sans précédent.
C'est sans précédent, c'est un choix qui est motivé par beaucoup de choses. Dans l'étude qu'on a faite, on a vu un certain nombre de points. Ce qui est amusant, ce qui est passionnant, c'est de voir que le premier choix des freelances, plus de 50% décident de devenir freelance pour le plaisir de la réalisation des missions. C'est-à-dire pour être heureux au travail, en fait. On travaille entre 8 et 10 heures par jour, indépendamment de ce que dit la loi, entre ce qu'on a dans la tête, ce qu'on en dit à ses amis, etc. 10 heures par jour, c'est beaucoup à passer si notre travail n'est pas intéressant.
Le future of work a été amplifié par la crise du Covid. Et selon votre enquête, cela a bien sûr créé des départs inégalés. Il en résulte un exode massif, dites-vous, du salariat classique traditionnel vers le statut d'indépendant. Et du coup, les talents,
les experts, on va dire.
Les experts basculent dans le statut freelance. C'est une révolution numérique qui n'en finit pas de créer des bouleversements.
Ça n'en finit pas parce que ces gens veulent rester experts. Donc, par exemple, la formation, ils vont s'auto-former. Ils vont pas attendre qu'une entreprise les forme. Ils vont toujours vouloir être au sommet de leur art. Mais au fond, on est un peu pareil. Hein. Si on doit choisir un chirurgien cardiaque, on va préférer celui qui est expert, qui a une très forte expérience et qui s'entraîne à celui qui débute ou celui qui travaille pour un hôpital, l'air de rien.
Alors, cela dit, 44%, c'est le chiffre que j'ai lu, 43% des répondants, obtenir de meilleurs revenus personnels est une motivation à exercer en tant que freelance. C'est pas complètement gratuit, hein, c'est pas pour la beauté.
C'est
pour
pas
la beauté.
Gratuit, je pense qu'il y a
quelques... Au départ, il y a quand même une question de fric.
Bien sûr, il y a quelques années, on trouvait vraiment que c'était des mercenaires. Aujourd'hui, on se rend compte que ça s'équilibre entre le fait de vouloir gagner plus, parce que c'est vrai qu'en en étant indépendant, c'est plus facile de discuter son taux horaire que discuter avec son employeur annuellement les choses. Mais de plus en plus, ça devient des passionnés.
Et en même temps, j'ai vu dans votre enquête qu'un freelance sur quatre attache une importance, finalement, ma chère Pauline, est-ce que vous disiez, aux valeurs et à la culture de l'entreprise.
Bien sûr.
Vous voyez qu'on est dans le sujet.
C'est la liberté. Je pense que certains deviennent freelance parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussure à leurs pieds dans une entreprise spécifique et qu'ils ont le choix de choisir des missions d'entreprises qui leur correspondent.
Et Éric Dizier, du coup, ils choisissent le statut de freelance parce qu'ils souhaitent continuer à développer leur expertise, dites-vous, et ils recherchent des projets intéressants, stimulants.
Ils
n'ont pas forcément dans l'entreprise où ils étaient, quoi.
Oui, ou parce que aussi
en informatique. C'est l'enquête. Je rappelle, c'est une enquête auprès, pour ceux qui nous rejoignent, c'est une enquête auprès de 1246 freelances.
Absolument. Ils n'ont pas trouvé la mission, ou la mission s'est terminée en informatique. On travaille par projet, on ne travaille pas sur une vie. On fait un projet qui se termine, on en prend un autre. Et dans ces cas-là, on peut changer d'employeur. Mais attention, les freelances attachent beaucoup d'importance à la mission de l'entreprise. C'est-à-dire que là aussi, il y a une pénurie. Donc, ils vont privilégier les entreprises à mission, ou celles qui sont proches d'eux au niveau de façon d'être ou d'intérêt. Donc ils sont aussi même critères qu'une personne qui cherche à être employée.
Oui, toujours dans cette enquête très sérieuse que vous avez menée, il y a un chiffre qui m'a étonné. 48% des freelances sont même prêts à payer un TJM, taux journalier moyen, plus intéressant. C'est un vrai, réel besoin d'accompagnement.
À payer à...
C'est ce qu'ils recherchent.
Plutôt à recevoir. C'est-à-dire que ils sont payés à la journée. Par contre, certains et beaucoup acceptent, un peu comme les acteurs hollywoodiens, acceptent et souhaitent avoir un agent qu'ils vont payer,
c'est
le cas de Comet, entre autres, pour les aider à avoir une carrière qui soit correcte. Ils vont beaucoup nous demander, et ils payent une petite partie de leurs revenus pour cela, ils vont beaucoup nous demander quelle est la prochaine mission, que penses-tu ou que pensez-vous de cette société. Donc on a un rôle d'intermédiaire, un peu d'agent, un peu comme un bon recruteur externe va essayer de séduire le candidat et l'entreprise, mais va aussi essayer de trouver un match qui soit beau.
Et ça c'est nouveau, c'est une bonne idée, c'est vous qui avez inventé ce principe.
Je pense que c'est plutôt Hollywood, en fait, historiquement, mais dans le monde du freelancing,
en France,
on est les seuls, je pense, oui.
Voilà, c'est marrant, hein, Pauline, à considérer le candidat comme une... Non,
surtout
pas comme
qu'en
une star,
en informatique, c'est pas toujours des personnes qui... Elles peuvent quelquefois peiner à communiquer. Un informaticien est souvent quelqu'un très, très penché sur sa machine ou son code, donc c'est pas forcément le meilleur communicant. Il se vend pas comme un commercial.
Oui, et les freelances ont du mal à trouver dans le sourcing classique la possibilité donc de trouver les meilleurs, de voir qui sont ceux qui recherchent les meilleurs experts.
Absolument.
C'est ça.
Ils savent qu'ils sont bons. Ils passent en moyenne jusqu'à 2 jours par mois à trouver leur prochaine mission ou passer par des agents comme nous.
C'est terrible, c'est génial. J'ai découvert aujourd'hui un nouveau métier. Agents n'ont pas de star, hein. On ne parle pas de Mbappé, mais on parle de monsieur, madame, tout le monde, le freelance qui s'adresse à un agent.
Absolument.
C'est d'ailleurs, je me demande pourquoi ça n'a pas existé avant. Bravo. C'est
alors, merci.
Une bonne
idée. Mais du coup, on a essayé exactement comme le fait Pauline. On essaie d'aider les grandes entreprises, que nos clients sont exclusivement des grandes entreprises, grandes banques, grandes assurances, etc. On essaie de les aider parce qu'ils se trompent aussi ou ils ont besoin d'aide, les grandes entreprises, pour attirer cette nouvelle génération de talents.
C'est vrai.
Donc on a fait un concours, vous connaissez tous le Best Place to Work qui a été lancé aux États-Unis. On a lancé le Best Freelancer Place to Work où on jauge la qualité d'intégration. En grand compte, un freelance, c'est un peu un externe entre le fait qu'il soit un peu dans un coin mercenaire où il n'a pas le droit à un email normal. C'est un email marqué point externe at pour être certain que les RH ne vont pas avoir de problème. Donc les entreprises commencent à jouer le jeu. On a nominé et élu 4 meilleures entreprises, grandes entreprises françaises, pour leur meilleure capacité à intégrer des freelances à la suite de cette étude. La fin de cette étude, c'est les freelances devaient voter sur ceux qui les ont les mieux intégrés, accueillis, compris.
C'est ça qui est important.
Et c'est aussi la marque employeur.
Une bonne idée, hein. Avas aurait pu l'avoir.
Bonne idée. Non. Il faut toujours des partenaires. Et ça, c'est OK. Mais c'est loin d'être anodin parce que ça vient bouleverser les modèles des entreprises. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez le CDI, le CDD. Et puis maintenant, vous avez la fidélisation des freelances. Et ça, en termes de culture d'entreprise, c'est comment vous travaillez avec ces 3 typologies de personnes. C'est un vrai challenge et un vrai défi pour les ressources humaines, les managers et les dirigeants d'entreprise.
Alors, je vous remercie d'avoir réagi, Pauline. Bravo pour ce témoignage, on est ravis, vraiment, parce que c'est vraiment nouveau. C'est étonnant et comment on n'y a pas pensé avant. Vous l'avez fait et bravo. Ce qui explique votre succès, hein. 65 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans.
On est assez fiers, oui, en 4 ans.
En 4 ans. Zéro, bravo, chapeau. Alors, c'est presque une start-up, vous l'avez été. Voici une start-up. C'est le coup de pouce à la start-up, comme chaque semaine. Tout de suite.
BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute.
Elle s'appelle Objo. Salut Objo.
Bonjour.
Bonjour Adrien Chartier. Ça veut dire quoi Objo? O-B-J-O-W.
O-B-J-O-W, c'est l'alliance entre Objectives et Grow, en anglais, Grow, la croissance, donc les objectifs de croissance.
Parfait, bon, c'est ça.
C'est notre mission.
J'ai compris. Alors justement, oui, votre start-up, elle est née en 2019. Voilà, le siège est où?
Alors le siège est à Lyon.
D'accord.
Fondé en 2019 par Jonathan Leduc, mon associé et président aujourd'hui de la société.
Oui, et vous?
Et moi, et du coup, on a démarré la commercialisation en janvier 2020.
D'accord. Vous êtes deux copains, copains de fac peut-être, ou d'école?
Non, deux copains de soirée. On s'est rencontrés chez un ami, et voilà, comme quoi les soirées.
Ça peut être utile.
Faire des rencontres.
Faire la fête, ça peut déboucher aussi sur du business.
Exactement.
Toutes les opportunités sont bonnes. Alors, vous êtes donc co-gérant, 12 collaborateurs. Vous êtes éditeur de logiciels spécialisés dans. Je vous laisse le préciser.
Alors, externalisation de logiciels, effectivement, spécialisé dans l'animation des performances. En fait, Objo, c'est un logiciel qui va s'appuyer sur les mécaniques de gamification, donc les mécaniques qu'on retrouve habituellement dans les jeux, pour s'appliquer au contexte professionnel et aider et engager les collaborateurs à atteindre leurs objectifs.
Donc, c'est piloté, dites-vous, et récompensé. Voilà.
Piloté, animé, surtout, et récompensé également. Ouais. Valorisé.
Comment est-ce qu'on récompense?
Alors, on peut récompenser avec des
cadeaux,
leviers de motivation, on va dire, extrinsèques. Hein, donc, voilà, des chèques cadeaux, des primes, des primes sur objectifs, justement, des primes sur challenge aussi. Et puis, ça peut être aussi des récompenses type des badges qu'on va venir débloquer, qui vont nous valoriser au sein de la société.
Et aujourd'hui, vous avez des clients, donc, j'imagine?
Aujourd'hui, on a des clients.
Oui, tant mieux, pour ça.
C'est le nerf de la guerre. Mais
vous ne donnez pas votre chiffre d'affaires comme toutes les startups?
On communique pas forcément là sur le chiffre d'affaires à l'heure actuelle.
Alors, est-ce que ça marche?
Mais ça marche.
Est-ce que vous êtes content?
On est très content, on a plus de 10 000 utilisateurs actifs.
Ah bah oui, votre logiciel, 10 000 collaborateurs, c'est pas mal.
Aujourd'hui, 10 000 utilisateurs sur des secteurs assez variés, donc dans le recrutement, dans le secteur de l'assurance et de la mutuelle, dans le secteur bancaire. Et aussi dans le secteur de l'agroalimentaire.
Alors ce logiciel, à l'image, si vous nous suivez sur BFM Business TV, en radio c'est plus compliqué, mais ce logiciel, il est destiné à qui? Aux collaborateurs, aux hommes et femmes de l'entreprise ou aux DRH?
Tout à fait, c'est destiné véritablement aux managers et aux collaborateurs. C'est vraiment un outil sur lequel va pouvoir s'appuyer le manager pour animer ses équipes.
Oui. Est-ce qu'il peut recruter des talents avec ça?
Alors, non, c'est pas une solution.
C'est pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise.
C'est pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Ça peut être pour des partenaires extérieurs également. Hein. On parlait de freelance. Ça peut être utilisé, effectivement, pour animer un réseau de freelance.
Alors, on va poser la question à Pauline Caillat. Je vous rappelle qu'elle est directrice de Havas Paris People, votre experte en RH. Ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça toujours formidable quand il y a des nouveaux outils qui se mettent à disposition des entreprises, des collaborateurs et notamment des managers, parce qu'on les sent un peu paumés devant la difficulté de la tâche de temps en temps à comprendre les équipes, à les accompagner avec suffisamment de temps. Donc chapeau, parce que je trouve ça toujours très opportun.
Alors, on est là pour vous aider, donner un coup de pouce à une jeune pousse, comme on dit. C'est notre job aussi dans le Club Média RH. Vous avez 5 postes à pourvoir.
Tout à fait.
Quels sont ces postes? Qui recherchez-vous?
Alors, en priorité, un account exécutif.
D'accord.
Qui potentiellement pourra prendre la tête de l'équipe commerciale à terme. Donc pour accompagner le closing sur des clients plutôt grands comptes. Un développeur full stack sur la partie tech pour enrichir notre produit et toujours apporter plus de valeur à nos clients. Et puis un chef product officer pour gérer.
C'est quoi un chef product officer? Je découvre.
Donc c'est vraiment le responsable de la stratégie produit et c'est lui qui va gérer la stratégie à moyen et long terme.
Ouais. Ce sont des hommes et des femmes que vous recherchez expérimentés plutôt?
Plutôt des profils expérimentés. Ouais.
D'accord. Donc ça veut dire que de votre côté, vous avez un financement, vous avez levé des fonds ou bien vous êtes en auto-financement?
Tout à fait, on est en autofinancement. On projette de lever des fonds. C'est une question qui se pose actuellement. Et on est bien entouré, justement, pour répondre à ce sujet, puisqu'on fait partie de l'accélérateur du Hub 612, qui est l'accélérateur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes-Auvergne.
Très bien. Est-ce que, oui, non, mais c'est pour assurer ceux qui nous écoutent, les candidats potentiels pour vous, leur dire tout va bien, cette entreprise a les moyens de vous recruter.
Bien sûr.
Je pose la question.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous leur offrez ? Qu'est-ce que vous leur offrez aux candidats ?
Qu'est-ce qu'on leur offre ? Alors, on leur offre une expérience déjà stimulante, enrichissante, puisqu'on intervient auprès d'acteurs de renom sur des sujets très stratégiques. Et on a beaucoup de valeur à leur apporter avec notre solution dans un contexte RH, comme on le disait, où la fidélisation des collaborateurs est un point essentiel.
Pauline, je me tourne encore vers vous. Ce que vous en pensez, là, c'est original.
Moi, je trouve ça original, mais il y a quelque chose de très remarquable dans la présentation des offres qu'Adrien a faites. Il y a une petite parenthèse sur un des jobs proposés qui permet de projeter le candidat. C'est on te recrute à ce niveau-là, mais demain, tu seras peut-être head of si tu performes. Et ça, typiquement, dans les techniques de recrutement, c'est très bon.
Ça marche.
Ça marche.
C'est ce qu'il faut faire. Vous nous avez donné...
Plutôt une best practice.
Ouais. Voilà, très bien. Voilà, il nous reste 45 secondes pour rappeler que nos invités, vous pouvez les contacter. Pauline Kaya, Avas Paris People, c'est simple.
Ça se trouve en ligne et la réputation en ligne est parfaite.
Et la réputation en ligne, c'est votre métier. Merci à vous, Eric, Didier, et encore sincèrement bravo pour votre innovation. Qualifier les experts, les freelance, et faire un concours auprès des entreprises. Chapeau, on peut aller sur votre site, vous avez un site.
Absolument, c'est comet.co.co et pas .com.
Voilà, et c'est Comet sans E.
C'est la Comet américaine.
Voilà, comet.co.
CO.
Et enfin vous, Objo, Obgrow,
Objo.com.
Objo.com, OBJOW.com. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite de réussir et bonne chance. Vous nous tenez au courant. Bon week-end, à la semaine prochaine.
BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.